c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, aux racines de la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit à l'avortement.
Oui, une décision qui, d'après les juges qui en sont à l'origine, se fonde sur des arguments de droit et uniquement de droit, une lecture littérale de la Constitution qui rendrait impossible l'arrêt de 1973 appelé Roe versus Wade, autorisant le droit à l'avortement, arrêt confirmé en 92 et donc supprimé en fin de semaine dernière. Au-delà des protestations, de l'indignation suscitée par cette décision, c'est aussi sur le terrain du droit que se joue aujourd'hui la contre-offensive à ce revirement de la Cour suprême, en Louisiane par exemple, mais aussi en Floride ou dans l'Utah. Des juristes planchent pour trouver des failles dans les lois qui, dans chacun de ces États, interdisent désormais ou interdisent à nouveau aux femmes d'interrompre leur grossesse au-delà de délais de quelques semaines. Des arguments juridiques donc, mais aussi une guerre culturelle, et nous tâchons ce matin de comprendre qui est à l'origine de cette offensive réactionnaire de longue haleine et comment elle est parvenue à ses fins. Bonjour Éric Fassin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de sociologie dans les départements de sciences politiques et d'études de genre à l'Université Paris 8. Vous êtes aussi chercheur au laboratoire CNRS d'études de genre et de sexualité. Pour commencer, Éric Fassin, on a évoqué au sujet de ce basculement de la Cour suprême, à la fois dans le conservatisme et dans la conviction qu'il fallait supprimer cet arrêt Roe versus Wade, on a évoqué le travail de lobbying d'une certaine Federalist Society, un groupe de pression de juristes conservateurs créé dans les années 80. Qu'est-ce que c'est que ce lobby et comment on peut aujourd'hui évaluer son rôle réel ?
Alors effectivement, il y a une histoire intellectuelle qui est aussi une histoire politique de la décision qui vient d'être rendue par la Cour suprême, Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Cette Federalist Society, donc cette société fédéraliste, elle se réclame des fédéralistes, Madison, Hamilton, qui ont pensé la Constitution pour essayer de revendiquer une continuité historique. La doctrine de l'intention originelle, eh bien, c'est ce qui fonde leur raisonnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on doit essayer de restituer le contexte dans lequel ont été pris les amendements pour pouvoir savoir ce que ça voulait dire, ce que ça voulait dire du point de vue de l'intention. Donc ça n'est pas le texte tout seul qui parle, mais c'est l'intention qu'il faut restituer. Ça donne le sentiment d'être une démarche historique. En réalité, bien sûr, ça n'est nullement neutre, ça n'est pas une manière de chasser l'idéologie, c'est une manière d'épouser une idéologie ancienne, c'est-à-dire de refuser l'idée que la loi peut évoluer, que l'interprétation, elle se fait en fonction de l'évolution de la société et non pas simplement en fonction de ce qu'étaient les États-Unis, par exemple en 1868, pendant la Reconstruction. La date est importante parce que 1868, c'est le 14e amendement qui est invoqué pour justifier de ouvrir le droit à l'avortement. Et là, c'est récusé en disant, mais vous voyez bien, ça coïncidait au contraire avec le moment où on pénalisait l'avortement. Donc, il n'était pas dans l'intention de ceux qui ont rédigé le 14e amendement d'ouvrir un droit à l'avortement. C'en est donc fini du droit à l'avortement. Ça ne veut pas dire qu'il soit interdit, mais ça veut dire qu'il n'est plus un droit.
Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une lecture originaliste. En tout cas, ces juges de la Cour suprême comme Clarence Thomas ou Samuel Alito sont tous les deux des juges originalistes en ce sens qu'ils défendent une lecture littérale. Et cette Federalist Society, donc il est difficile de mesurer son rôle exact, mais en gros, elle sélectionne des candidats à la Cour suprême, elle fait des listes qu'elle soumet au président qui peuvent plus ou moins s'y fier à ces listes-là. En tout cas, est-ce que dans la réalité, ça s'est confirmé ?
Ben alors, ce qu'on sait déjà, c'est que pour la Cour suprême, 6 des juges,
sur
et
9.
Il se trouve que sur les 9, oui, 6 des juges ont historiquement un lien avec cette société fédéraliste, soit qu'ils y appartiennent encore, soit qu'ils y aient appartenu. Donc, ça coïncide, en fait, avec la majorité conservatrice de la Cour suprême, les 6 juges conservateurs. Ça se joue non seulement au niveau de la Cour suprême, mais ça se joue au niveau inférieur. Les juges fédéraux, eh bien, pour une grande partie, viennent de la Federalist Society parce qu'ils ont été nommés pendant les années conservatrices, par exemple, par Donald Trump. Donc, en fait, il y a une manière d'occuper le terrain. La carrière, elle passe par le fait d'avoir rejoint ce groupe conservateur et libertarien, parce qu'il ne s'agit pas seulement, bien sûr, du domaine des droits en matière d'avortement ou de sexualité, ou même des droits pour tout ce qui touche au domaine qu'en français on appelle souvent sociétal. En réalité, ça touche aussi bien à l'économie, par exemple.
Donc, ils sont ces juges intégrés dès le départ dans certains réseaux. Ceux qu'on qualifie de conservateurs, est-ce qu'ils sont quand même choisis et ensuite confirmés au Sénat pour leur talent de juriste? Est-ce qu'ils ont développé des philosophies constitutionnelles propres? Est-ce qu'ils se sont fait connaître aussi par leurs travaux, leurs écrits? Ou simplement, on n'est que dans l'idéologie?
Alors, bien sûr, en principe, il doit y avoir une compétence. Mais on a un exemple qui est particulièrement frappant, c'est celui de Clarence Thomas. Clarence Thomas qui a écrit une opinion pour rejoindre celle de la majorité, mais qui va encore plus loin. Clarence Thomas, en 1991, a été nommé par George Bush père, et il a été confirmé malgré des auditions très mouvementées, puisqu'il a été accusé par une autre juriste, Al-Tahil, de harcèlement sexuel. Et les auditions ont donc provoqué une sorte de coup de tonnerre dans la vie publique aux États-Unis. Or, ce juge, il n'était pas bien noté par l'association des juristes états-uniens. Il était noté seulement B, ce qui n'est pas une très bonne note. Pourquoi ? Eh bien parce que on l'a choisi non pas en fonction de sa compétence, mais en fonction de deux autres critères. D'une part, il était très jeune, 43 ans, et ce qui veut dire que, on parle de 1991, mais il est toujours là, plus de 30 ans plus tard. Autrement dit, nommer un juge très jeune et qui a peu d'expérience, c'est le moyen, eh bien, de s'assurer qu'il restera longtemps. Mais aussi, c'est un juge qui avait très peu écrit, et donc on ne pouvait pas l'attaquer sur ce qu'il avait écrit, puisque il n'avait pas dit grand-chose, donc il pouvait tout à fait refuser de répondre sur les questions qui concernaient Roe v. Wade, c'est-à-dire la décision de 1973 sur l'avortement. Il pouvait feindre de n'avoir pas encore une opinion constituée. Il pouvait se soustraire à la logique même des auditions.
Et vous l'aviez écrit d'ailleurs dès 2009, vous aviez écrit au sujet du juge Clarence Thomas qu'il avait pu affirmer sous serment, sans rire, n'avoir jamais discuté de cet arrêt, Roe versus Wade. Or, il avait quand même écrit sur le sujet, il avait même signé un rapport, même sans l'avoir compris ou lu, disait-il à l'époque. Tout ça, ça commence quand même dans les années 80, Éric Fassin, cet arrêt dont on parle, qui affirme le droit des femmes à disposer de leur corps, date de 1973. Est-ce que c'est à peu près là ou quelques années plus tard, que va commencer réellement la contre-offensive conservatrice réactionnaire à la Cour suprême en réaction à cet arrêt en particulier?
Alors effectivement, dès les années 1970, il y a une double réaction, la réaction conservatrice et la réaction progressiste, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une mobilisation pour ouvrir les droits et de l'autre, il y a une mobilisation pour fermer ces droits. Ça, c'est dans la société. Mais on va le voir dans le droit et en particulier à la Cour suprême, dans les années 1980, de manière très spectaculaire. En 1987, un juge extrêmement bien qualifié, formé, qui a beaucoup écrit, Robert Bork, est nommé pour la Cour suprême, mais il est rejeté par les démocrates parce qu'il est considéré comme trop conservateur. Lui, il a beaucoup écrit, on sait ce qu'il pense, et donc c'est sur ses opinions qu'il va être rejeté.
Donc c'est dans les deux sens. Donc c'est dans les deux sens qu'on peut parler de politisation de la Cour suprême à partir des années 80.
Absolument, ce qui n'était pas le cas dans la décision de 1973, puisque la plupart des juges avaient été nommés par des présidents républicains. Autrement dit, les juges étaient sans doute moins tributaires de celui qui les avait nommés, du président qui les avait choisis. Il y avait davantage d'autonomie de la Cour suprême. On sait que, en revanche, la Cour suprême va jouer un rôle important, décisif, pour l'élection de 2000. Autrement dit, c'est elle qui va assurer que ce sera Bush et non pas Gore qui sera élu. Autrement dit, la Cour suprême est amenée à faire de la politique et les présidents savent très bien ce qu'ils font au moment de nommer ceux qui deviennent en quelque sorte des obligés.
Oui, la majorité politique de l'institution, c'est l'enjeu de ces nominations à la Cour suprême qui sont des batailles politiques en soi. Donc vous rappeliez, Éric Fassin, qu'aujourd'hui, 6 des 9 juges de la Cour suprême sont des juges conservateurs. Vous avez rapidement évoqué la question de l'âge qui est là encore un enjeu en soi et un élément très important du choix de ces juges. Alors, est-ce que un ou une juge doit être nommée pendant la mandature de Joe Biden? Combien de temps la Cour suprême peut-elle garder cette majorité conservatrice écrasante?
Alors bien sûr, on ne sait pas d'avance quelles places vont pouvoir se libérer. Ce qu'on a vu, c'est que les républicains avaient réussi à bloquer, dans le cas d'Obama, une nomination 9 mois, je crois, avant la fin du mandat d'Obama, en disant qu'on n'allait pas nommer quelqu'un, on n'allait pas confirmer quelqu'un en fin de mandat. Ça, c'est une force des républicains, c'est qu'ils ne reculent devant rien pour remplir la Cour suprême. C'est un combat qu'ils mènent depuis des années. C'est une bataille qui se joue à chaque nomination. Et donc, l'âge des candidats, eh bien, c'est très important parce que c'est un investissement dans l'avenir. De ce point de vue, il y a une très grande cohérence de la démarche des présidents républicains, de même que des juges, de même que de la société fédéraliste. Il y a véritablement un projet idéologique pour transformer la société. Le paradoxe, c'est que ça se fait au nom d'une logique, se prétend non idéologique, qui se prétend purement historique, alors qu'en réalité, c'est un rapport à l'histoire qui est un peu paradoxal. On peut prendre en effet l'exemple de la décision qui a été prise la veille de celle sur l'avortement et qui concerne le droit de porter des armes. Le droit de porter des armes, il est inscrit dans le 2e amendement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, une lecture historique? Dans ce cas-là, on sait bien que, en réalité, il ne s'agissait pas de dire que chacun pouvait porter une arme pour se défendre dans la rue. En réalité, ce que disait le 2e amendement, si on voulait être dans une logique originaliste, ce qu'il disait, c'était qu'il était possible d'organiser des milices pour protéger la population. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'un droit individuel, mais d'un droit collectif. Il y a donc une réinterprétation de l'histoire chez ceux-là même qui prétendent être originalistes.
Merci beaucoup Éric Fassin pour ces explications. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie dans les départements de sciences politiques et d'études de genre à l'Université Paris 8 et chercheur au laboratoire d'études de genre et de sexualité du CNRS.